Le 27 septembre dernier se déroulait à la Gare Saint-Sauveur à Lille une rencontre intitulée « Quelle voie pour le TER ?», une série de débats organisés par le CSE TER Hauts-de-France, donc l'instance de représentation du personnel de la SNCF concernée par le rail régional. On était sur place et on commence par écouter Xavier Wattebled, qui est syndicaliste CGT et président de la commission économique du CSE TER.
On a voulu mettre en lumière cette idée fumeuse de concurrence instaurée par le conseil régional. On a voulu créer un débat et puis éclairer au moins les usagers, les cheminots, et puis amener des solutions autres que cette concurrence pour améliorer le système ferroviaire en Hauts-de-France et puis la qualité de service.
Vous êtes en faveur d'un monopole parce que c'est un monopole de une situation naturelle et puis aussi un enjeu stratégique de développement des territoires, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, un monopole, tout dépend comment on le prend. Si on part du principe où c'est un monopole public qu'il nous faut, oui, il nous faut un monopole public parce que là, ce qui va se passer, c'est un monopole privé qui va se dessiner. Le monopole était, sur 5 ans, tracé avec une convention TER avec l'entreprise historique SNCF. Demain, l'ouverture des lots va amener un monopole privé pour 9 ans. Une entreprise privée va être choisie pour 9 ans et pendant 9 ans exploiter un lot. Donc le monopole, si on est contre les monopoles, on en crée pas un derrière. Donc oui, monopole privé, c'est pas la bonne solution. Monopole public avec une entreprise intégrée règle quelques soucis dès lors qu'on y met des barrières. Voilà. Et l'aménagement du territoire en a besoin. Et la rentabilité n'est pas le lieu où on doit discuter. Enfin, la rentabilité n'a rien à faire dans ces discussions-là. Voilà.
Quel est votre regard sur la manière dont cette mise en place de la concurrence est faite dans la région ?
Elle se fait sans concertation avec les associations d'usagers, c'est ce qui en est ressorti. Elle se fait sans concertation avec les organisations syndicales représentant du personnel des cheminots. Elle se fait en catimini entre les entreprises privées et le conseil régional, sous le secret des affaires. Donc on va se réveiller un beau matin avec les lots et le cahier des charges aura été construit de toutes parts par les entreprises concurrentes et puis par le conseil régional. Voilà, sans l'expertise des usagers, sans prendre en compte les besoins des usagers et puis les besoins des cheminots non plus.
Dans la première table ronde, il a été question des conséquences sur les usagers. Dans la deuxième table ronde, c'est les conséquences sur les cheminots. Quels sont les dangers, quelles sont les perspectives aussi pour ces salariés, pour les cheminots ?
Le danger pour les cheminots, c'est déjà un transfert d'entreprise. Suivant l'appel d'offres et suivant l'entreprise qui aura remporté l'appel d'offres, il y aura un transfert vers cette nouvelle entreprise. Donc le cheminot qui a été embauché à la SNCF sera demain dans une autre entreprise, peut-être une filiale, peut-être...
Il aura le choix ou...
Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix dès lors qu'il a 50% de son travail pour le lot concerné. Il sera transféré. Et comme le conseil régional a imaginé de privatiser l'ensemble du réseau, l'ensemble des salariés du TER seront transférés à terme dans les entreprises qui auront remporté le lot, quoi, en gros.
Avec un statut comment ça va se passer
avec
là ?
Avec une convention nationale et puis des accords d'entreprise, mais plus de statut. De statut de cheminot, quoi. Voilà. Donc ils perdent leur statut suivant l'entreprise qui remporte le lot. Si c'est la filiale, ça reste moins douloureux et encore. Par contre, dans une entreprise de droit privé, il n'y a plus de statut de cheminot.
L'ouverture à la concurrence, ça, c'est fait. Le combat est perdu pour vous, mais là, c'est de peser dans les négociations. Comment ça se passe là ? Vous en êtes où là ?
Ouais, non, le combat n'est pas perdu, loin de là. On peut toujours revenir en arrière. D'ailleurs, certains pays sont revenus en arrière après la mise en concurrence. Il y a plein d'exemples. La Suède, l'Angleterre, la Suisse a fait un choix différent et a fait un monopole public. La Belgique a fait une convention de 10 ans avec l'entreprise historique. Enfin, il y a plein de pays européens qui jouxtent la France, qui reviennent en arrière par rapport à cette idée fumeuse de concurrence. Donc on ne perd pas espoir à ce que le conseil régional entende raison et puis imagine que oui, effectivement, ça va être une usine à gaz et du coup, on va revenir en arrière. Il reste toujours la possibilité de conventionner avec l'entreprise historique le TER, comme c'est fait depuis quelques années maintenant, depuis la mise en place de la gestion par les régions. Et d'ailleurs, la loi l'autorise à conventionner avec l'entreprise historique.
Les usagers dans tout ça ?
Alors, les usagers dans tout ça sont très partagés, c'est ce qu'on a vécu ce matin. Ils entendent un peu, certaines associations entendent un peu les sirènes que ça va s'améliorer, mais en expliquant un peu plus les choses, effectivement, il y a quelques éléments dont le Conseil régional n'a pas évoqué. Qui va construire le plan de transport, par exemple ? Comment va se passer les correspondances entre les lignes, entre les lots ? Quelle synergie entre les différentes activités, enfin, entre les différentes sociétés qui exploiteront le réseau, enfin c'est tous des éléments qui, oui effectivement, quand on les pose, on peut se poser la question de l'efficience d'une mise en concurrence. Voilà. Une seule entreprise, c'était déjà compliqué. Plusieurs entreprises, j'imagine mal comment ça va fonctionner.
Xavier Wattebled, syndicaliste CGT et membre du Conseil social et économique TER Hauts-de-France. Autre témoignage recueilli fin septembre lors de cette rencontre, quelle voix pour le TER, celui de Christiane Dupart, qui fait justement partie d'une association d'usagers de transport. Elle est vice-présidente de la FNOT au niveau national.
Nous représentons les usagers, nous sommes quand même une grosse fédération d'usagers et c'était important de dire ce que nous pensions de l'ouverture à la concurrence. Et donc moi je trouvais important d'expliquer ce que nous pensions par rapport aux syndicalistes par exemple qui se sont exprimés ici. Je voulais représenter les usagers qui ont une vision un peu plus nuancée de cette ouverture à la concurrence, même si nous n'en attendons pas tout, mais les usagers, eux, ils ont besoin de trains qui partent à l'heure, qui arrivent à l'heure et qui ne soient pas supprimés, où ils aient du confort. C'est ça qui est important pour les usagers. Et ça, nous ne savons pas. Actuellement, la SNCF ne nous donne pas ces éléments et la SNCF ne répond pas aux besoins des usagers. Dans la mesure où la SNCF actuellement ne répond pas aux besoins des usagers, en tant que fédération d'usagers, on se dit pourquoi pas accepter l'ouverture à la concurrence à condition que ce soit une concurrence régulée, c'est-à-dire que ce soit une délégation de service public, que ce soit toujours du service public et qu'il y ait un vrai contrat entre la région et l'opérateur, qui pourrait d'ailleurs être la SNCF, mais qui pourra aussi être un autre opérateur, à condition que cet opérateur ou bien la SNCF, si elle remporte le marché, réponde aux besoins des usagers. Actuellement, la SNCF n'y répond pas.
Tout le monde se revoit un petit peu la balle. Les cheminots disent, bon, il y a la SNCF, les SNCF, on peut dire aussi. Et puis, il y a aussi le conseil régional qui est absent aujourd'hui.
Alors, il est bien évident que ce qui va permettre de répondre aux besoins des usagers, c'est d'une part le financement de l'État, c'est-à-dire il faut que l'État finance correctement les infrastructures, c'est-à-dire les rails, hein, qui restent propriété de l'État, et il faut que le Conseil régional accepte de financer largement les transports publics, c'est-à-dire que la convention, elle est signée par le Conseil régional qui est le financeur, c'est-à-dire que c'est le Conseil régional qui décide du financement et du degré de financement. Donc, pour satisfaire les besoins des usagers, il faut à la fois que le Conseil régional décide de privilégier le rail par rapport à la route, par exemple, et donc de privilégier le transport ferroviaire. Et il faut également que l'État fasse le maximum pour l'infrastructure dont on sait qu'elle est en mauvais état.
Là, c'est en train de se jouer maintenant. Là, les premiers appels d'offres ont été publiés, hein, il me semble. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous demande votre avis en tant qu'usager ?
Alors, on a été contacté par les opérateurs qui souhaitent concourir à l'appel d'offres. Par exemple, on a été contacté par RATP Dev, par Transdev, qui vont répondre aux appels d'offres. Donc, on a expliqué ce qu'on souhaitait, nous, en tant qu'usagers. Alors, par rapport à la région, nous n'avons pas été consultés directement sur ce que nous souhaitons. On peut seulement imaginer, enfin nous espérons que la région nous a écoutés là au fil du temps où nous avons expliqué ce que nous voulions. Mais nous n'avons pas pu discuter pied à pied sur les demandes du Conseil régional par rapport à l'appel d'offres. nous n'avons pas pu en discuter directement.
Vous disiez, bon, les usagers, ils veulent juste des trains qui partent à l'heure, mais il y a quand même aussi une vision politique, il y a quand même des salariés qui travaillent, il y a un choix politique à faire, c'est pas simplement le train qui arrive à l'heure, non, c'est une question politique.
Absolument, c'est une question politique, puisque le contrat qui va être signé entre l'opérateur, qui pourrait encore une fois être la SNCF, et puis et le Conseil régional, ce contrat devra être voté au niveau du Conseil régional. C'est-à-dire que c'est une décision du Conseil régional qui est l'instance politique. C'est une question politique. Est-ce que le Conseil régional veut privilégier le rail et faire en sorte que les besoins des usagers soient satisfaits?
Dernière question peut-être. Oui. Dans d'autres régions, il y a des collectifs qui se sont mis en place autour de coopératives. Je pense à RailCoop, par exemple. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que ça vous intéresse?
Alors, nous voyons ça très positivement. Personnellement, je suis sociétaire de RailCoop, par exemple. Nous pensons que c'est intéressant comme initiative, puisque c'est une forme de coopérative, c'est-à-dire c'est une entreprise qui ne répond pas forcément à la loi du marché, mais qui est une coopérative, donc qui est plutôt liée à une solidarité, hein, puisque c'est une coopérative, et que cette entreprise d'un type nouveau est intéressante puisqu'elle répond à des besoins qui ne sont plus satisfaits par la SNCF, puisque cette coopérative veut ouvrir par exemple une ligne qui traverse le Massif central, ligne qui a été abandonnée par la SNCF, qui n'a plus voulu faire desservir les gares, qui n'a plus voulu faire rouler des trains sur cette région, parce qu'ils ont privilégié d'une part la route, hein, puisque Keolis, encore une fois, est une filiale de la SNCF, hein, qui fait rouler des cars, et puis aussi, ils ont privilégié le TGV, c'est-à-dire le TGV qui ne traverse pas le Massif central.
Alors, il y a des projets RailCoop dans les Hauts-de-France? Alors, vous avez un scoop à nous donner?
Non, il n'y a pas de projet RailCoop, mais nous avons bon espoir que RailCoop réussisse son aventure, parce que ce serait vraiment un signe positif par rapport à une concurrence intéressante, puisque ce ne serait pas une concurrence, disons, qui soit sauvage et qui ne réponde qu'au marché, mais ce serait une concurrence qui réponde aux besoins des usagers, puisque c'est leur objet.
Christiane Dupart de la FNOT Hauts-de-France, vice-présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Interview réalisée le 27 septembre dernier à Lille lors de cette rencontre. Quelle voix pour le TER?
Poursuit son chemin, serpentin, de bois et de ferraille, rouillé vert, de gris sous la pluie. Il est beau quand le soleil l'enflamme, au couchant, à travers champs.